parfaitement 11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue dans la Méridienne, auditeurs, auditrices. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui se trouve sur les internets. Il s'agit des mèmes. Alors attention, avec un accent grave, pas avec un accent circonflexe. Et pour en savoir plus sur la chose, j'ai le plaisir d'avoir dans ce studio Soufiane Chafik. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Alors Soufiane, tu es doctorant au sein du laboratoire PRIME, c'est pratiques et ressources de l'information et des médiations, et une thèse qui porte sur les mèmes. Peut-être veux-tu nous en dire plus ?
Merci, j'ai la chance de faire cette thèse à l'université de Tours, dans le charmant Tours Nord 37100, mais en réalité depuis Paris, où j'étudie les mèmes pour comprendre comment ils sont construits, comment on les comprend, quelles sont les opérations cognitives, émotionnelles, qu'il faut réaliser pour comprendre un mème, et comment et pourquoi il circule.
Et ça, c'est suite à un master de...
Sciences du langage.
Sciences du langage, alors ça a même un autre nom, peut-être un peu plus ardu.
La plupart disent linguistique, pour désigner la partie centrale et historique de ce champ disciplinaire, mais ça va de la linguistique, la sémiotique, la sémiologie. C'est plutôt dans ça, du coup, que moi je travaille maintenant, puisque ce que j'étudie, c'est... en grande partie non-verbal, puisque c'est des images, des vidéos, et tout un ensemble, un site par exemple, peut être considéré comme un ensemble de sens, mais qui est non-verbal seulement.
Alors peut-être que parmi nos auditeurs et auditrices, certains se demandent déjà, c'est quoi la sémiologie ?
Très bonne question, et les sémiologues eux-mêmes ne sont pas d'accord, mais si on peut essayer de définir, c'est la discipline qui étudie la question des signes. Donc les signes, ce sont... un composé de signifié et de signifiant, donc une forme qui va être liée à un sens. La forme la plus évidente, ce serait par exemple un mot, donc un signe linguistique, où on associe à la suite de son arbre un sens, un concept peut-être dans votre tête, mais ça peut être vrai aussi pour le bleu, qui a une signification culturelle, ça peut être vrai pour un carré, auquel on peut donner un sens, donc des formes et un sens.
Et ça peut être tout et n'importe quoi ?
Ça peut être tout et n'importe quoi. On peut faire de la sémiologie de l'espace, par exemple. Donc les personnes qui étudient comment une boîte de nuit pourrait être la plus adaptée, permettre la meilleure circulation, font en quelque sorte de la sémiologie. Font déjà de la sémiologie. On est tous, comme pour les sociologues, on est déjà tous un peu sémiologues. On a une compréhension instinctive, naturelle de comment les choses créent un sens. Et ce que le sémiologue fait en particulier, c'est qu'il systématise ses analyses.
Et comment on choisit ce sujet de thèse ?
Alors, comme je le dis souvent, j'ai passé beaucoup trop de temps sur Internet et ça n'est pas prêt de s'arrêter. J'ai été élevé sans heure de coucher, donc j'avais mon PC portable dès le collège, chez moi, dans ma chambre, sans surveillance parentale. Donc je passais beaucoup, beaucoup de temps sur Internet. Et un jour, quand il fallait choisir quelque chose pour le cours de communication digitale, je me suis dit pourquoi pas les mêmes. Personne dans la classe ne savait ce que c'était. On était déjà en 2016 pourtant. Et je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et de fil en aiguille, j'ai fini par en faire mon sujet de mémoire, puis de thèse.
Et le choix d'un laboratoire, comment ça s'opère ? Est-ce que c'est parce que c'est un des rares laboratoires en France qui peut accueillir une telle thèse ?
J'ai eu deux logiques séparées mais conjointes. La première, c'était d'avoir un directeur de thèse qui... comprennent et qui soient dans la même perspective que moi. Donc j'ai cherché sur internet qui travaillait là-dessus. À l'origine, moi j'étais donc en sciences du langage et c'est pas une discipline qui jusqu'à récemment s'occupait beaucoup des objets numériques, les objets très contemporains, alors que les sciences de l'information et de la communication, oui, elles ont vraiment tout ce qui est numérique, c'est très très ancré dans les objets d'études habituels de cette discipline. Donc j'ai basculé vers là et j'ai cherché quelqu'un qui dans la discipline pouvait me diriger. Et de l'autre côté, je suis venu depuis Paris parce que Tours étant une plus petite ville, les concours doctoraux pour avoir un financement étaient aussi plus restreints.
Voilà, donc c'est aussi une thèse financée, donc ça c'est ça ?
J'ai cette chance-là, merci beaucoup à l'Université de Tours et à la région Centre-Val-de-Loire pour ça, puisque ça offre quand même un grand confort.
Peut-être qu'on peut se pencher à présent, Soufiane, si tu le veux bien, sur ces fameux mèmes. Alors déjà, de quoi ça se compose un mème ? Est-ce que c'est... toujours la même chose, donc de l'image et du texte. Est-ce que c'est que du texte ? Est-ce qu'il peut y avoir aussi du son ?
C'est étonnamment, c'est toujours un peu un des enjeux quand je présente la thèse, c'est de faire comprendre que rien que de comprendre un mème, c'est une partie en soi d'analyse. C'est assez compliqué puisque c'est un mot qui a beaucoup, beaucoup changé de sens depuis son utilisation pour désigner des objets sur Internet dans les années 90. Dès l'origine, il a beaucoup de formes, donc ça peut être, dans la façon dont c'est plus connu aujourd'hui, de l'image et du texte, mais parfois c'était que du texte, par exemple des blocs que les gens copiaient-collaient d'un endroit à un autre, ce qu'on appelle un copy-pasta, des textes qui avaient une tournure particulièrement drôle, particulièrement réutilisable, donc les gens prenaient un pavé, le remettaient ailleurs, et ça devenait un mème. Ça pouvait être des vidéos, des parodies, par exemple, il y a une des plus connues des années 2000 sur YouTube, c'était celle d'une scène de The Fall, où Hitler s'énerve sur quelque chose, et ça a été fait sur la mort de Michael Jackson, sur plein d'événements différents, avec un sous-titrage qui changeait. Mais ça pouvait même être des liens, par exemple le Rickroll, qui était une pratique qui consistait, quand quelqu'un demandait quelque chose, par exemple une recette de cuisine, à lui envoyer un lien supposément vers la recette, mais en fait vers une vidéo d'une chanson, Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Et donc ça a vraiment des formes assez variées.
Donc pour ceux qui comportent des images, hein, parce qu'après tout c'est peut-être plus à ça que l'on pense, des mèmes avec images, comment elles sont choisies ces images-là? Est-ce qu'elles sont forcément connues du public cible, du public auquel on veut adresser ce mème? Donc c'est-à-dire, est-ce que c'est des pairs en fait, qui vont pouvoir comprendre cette image et la connaître? Et est-ce que c'est des images libres de droit?
Alors, la façon dont les images sont choisies, il y a eu plusieurs logiques, et c'est aussi pour ça que c'est aussi difficile de définir ce qu'est un mème. Pendant une première partie, on avait des images qui étaient assez stables, qui avaient presque une sorte de mode d'emploi associé. On savait que quand on mettait cette image-là, Dawson qui pleurait, il fallait écrire un texte du type une lamentation. Si on avait l'image d'un bébé qui faisait un point de victoire, il fallait associer une émotion positive. Et en fait, progressivement, les images sont devenues de plus en plus isolées. C'était des images qu'on n'avait jamais vues, qu'on ne verra jamais, mais qui suffisaient à illustrer un propos. Donc c'est le mode d'emploi, cette espèce de structure image-texte, qui est devenue la définition d'un mème, plutôt que le fait que ces images-là étaient répétées en boucle. Donc les gens trouvaient dans les films, dans les séries, dans toutes, des fois juste des personnes qui étaient là. Par exemple, une image très connue, c'est un coureur de marathon qui était particulièrement photogénique et qui est devenu du coup un des mèmes les plus utilisés du début des années 2010. Sans aucune question de droit, évidemment. Dans les débuts de la culture mémétique, toute cette question du droit, du financement était non seulement pas présente, mais surtout activement rejetée. Il y avait une volonté de ne pas commercialiser la culture. Il y avait un refus de la présence des marques dans cet espace qui devait être un espace participatif où tout le monde créait la culture, loin justement de cette culture industrielle que la télé nous pousse. Et en fait, progressivement, cette éthique-là, elle s'est un peu perdue. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui, dès qu'ils ont un micro-succès, commercialisent leur mème, en font des mugs, en font des t-shirts. Et on a des TikTok, par exemple. L'un des grands changements, c'est qu'il y a une watermark. Le nom de la personne qui a créé le TikTok est déposé dessus. Et donc ça veut dire que quand on circule cette vidéo-là, il y aura toujours la personne qui l'a créée en premier, ce qui n'était pas du tout présent avant. Donc ça pose des nouvelles questions juridiques que, pour l'instant, personne ne semble vouloir affronter.
Et est-ce qu'il y a aussi des banques d'images à disposition, ou même des mèmes générateurs?
Complètement. Très tôt, en fait, il y a eu, du coup, pour ces images-là qui étaient tout le temps les mêmes et que les gens pouvaient réutiliser, il y a eu des sites qui se sont mis en place, extrêmement simples d'utilisation, parce que c'était vraiment ça l'ADN du mème, c'est que ça devait être quelque chose qui prenait 5 secondes à faire. C'était une façon de montrer que c'était des choses populaires, le fait qu'il y avait ça se voyait que ça n'avait pas pris très longtemps, les gens faisaient même presque souvent exprès de bâcler, de montrer des déformations. Le texte était mal écrit, il choisit une police moche qui justement s'opposait à ces esthétiques très commerciales, lisses, qu'on pouvait trouver ailleurs. Et aujourd'hui encore, ces générateurs existent, mais vu que les images sont moins des images permanentes, ils ont moins d'importance.
Mais c'est-à-dire que le côté moche, ça faisait partie intégrante du mème?
Oui, c'était vraiment un choix esthétique. L'un des plus connus, qui s'appelle le Doggy, qui est un chien sur lequel il y a marqué « OK », plein de petits mots sans beaucoup de sens, était vraiment connu pour le fait d'utiliser cette police, le comics en MS, qui était un cliché chez les graphistes de la police la plus moche du monde. Et il y avait c'était une volonté active de se servir de cette chose moche. Il y a des gens qui appelaient ça le Internet ugly. Et ça a été vraiment l'esthétique définitoire de la culture numérique pour les années 2010.
Donc ça fait partie de l'humour aussi, peut-être lui-même, de choisir un truc moche exprès.
Complètement. Il y avait eu plus récemment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui était un mème Gossip Girl, où les gens s'amusaient à prendre la police extrêmement connue, pour certains en tout cas, certaines peut-être, de la série Gossip Girl pour remélanger les lettres et créer de nouveaux mots. Et le fait que ça semblait avoir été fait vraiment en 3 secondes sur Paint, même pas Paint.net, Paint, faisait partie active de l'humour de ce mème-là. L'esthétique est tout aussi importante que le ressort de la blague presque.
Est-ce qu'il y a des gens qui essaient quand même, malgré tout, de faire des mèmes beaux ?
Alors c'est possible, là tout de suite il n'y a rien qui me vient en tête. La culture a un peu changé, donc ce serait vraiment... Ah, il y a des gens qui mettent de plus en plus... Mais toujours avec cette idée de moche, c'est-à-dire que maintenant il y a les fonds verts TikTok et les gens mettent de plus en plus de production. Et c'est accepté qu'on imagine que la personne ait quand même mis au moins une demi-heure à trouver le fond, filmer, etc. Mais ça reste des fonds verts.
Bah, sinon ça tomberait à côté, en fait, c'est plus un mème si c'est trop soigné, en fait. Si c'est trop beau, c'est plus un mème, du coup.
Exactement, ça fait vraiment partie de... C'est pas la définition, mais c'est tellement central à comment on s'imagine le mème et aux raisons pour lesquelles il circule. C'est cette idée qui doit être moche pour représenter le malfait du peuple.
Est-ce que c'est un objet populaire pour autant ?
Historiquement, oui, en quelque sorte. Quand on le place dans le contexte de quand est-ce qu'il est arrivé, donc sur la démocratisation d'Internet à partir des années 90, où ça restait quand même un faible nombre de personnes qui y étaient, mais ce n'étaient pas des personnes qui étaient forcément placées par ailleurs dans des industries culturelles. Donc en ça, ça redistribuait l'écart de qui avait le pouvoir de créer des choses. Alors les gens ont toujours créé, évidemment, chez eux, etc. Mais tout d'un coup, ils pouvaient les partager beaucoup plus facilement. Donc en ça, c'est populaire, c'est pas populaire au sens classe sociale, mais il y a quelque chose où ça s'oppose aux industries qui avaient le monopole sur la création de la culture.
Ça fait peut-être écho, en tout cas chez moi, après... Tu me diras ce que tu en penses. Ça me fait penser au Musée international des arts modestes, à 7. Où justement, c'est de l'art populaire, c'est pas de l'art brut, mais c'est de l'art qui est fabriqué à la maison. Des choses que tu fais chez toi, des colliers de nouilles, des tableaux avec des feuilles, des choses comme ça. Et de se dire, bah, ça, on l'expose dans un musée parce que finalement, c'est aussi de l'art, mais c'est de l'art modeste.
Ah, complètement, alors. Oui, il y a complètement ce mouvement qui est plus large dans la culture que les mèmes et qui l'a permis, en même temps accompagne, de valoriser les productions de plus de personnes, de reconsidérer qu'est-ce que c'est que la culture. On appelle dans la postmodernité l'idée qu'il n'y a plus la culture haute et la culture basse. Maintenant, il y a des formes de culture qui se vaudraient avec, certes, évidemment, encore des degrés de légitimité, mais elles ont toutes le droit d'être exposées.
Est-ce que c'est de gauche ou de droite alors, les mêmes ?
Ce fut de gauche, dans un contexte américain ou international dans lequel les cartes ne sont pas exactement distribuées partout pareil. Mais il y avait en tout cas. Il n'y avait pas forcément quelque chose d'ancré socialement, de progressiste, mais il y avait en tout cas l'idée de s'opposer à une forme d'élitisme.
Parce qu'après tout, Enfin, d'un point de vue, disons, de 2025, on pourrait se dire cette idée que tout le monde peut être auteur, peut créer ou quelque chose, l'idée de démocratiser, disons, la pratique artistique ou l'expression, on pourrait dire, tiens, ça, c'est de gauche. Mais cela dit, de se dire, les revendications, peut-être, ce qu'on pourrait dire redneck, de dire, nous aussi, on veut prendre la parole, là, on dirait, c'est plutôt de droite. Du coup, qui fait des mèmes, toutes ces personnes ?
Finalement, tout le monde, et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment résumer à dire les mèmes, c'est de gauche, les mèmes, c'est de droite. Il y a cette idée du coup d'anti-élitisme qu'on a retrouvé en partie à gauche, mais qu'on retrouve aujourd'hui de façon très très présente dans une certaine forme de droite et à l'extrême droite. Le populisme, le déni des élites, etc. Donc c'est un peu plus... J'aimerais bien dire que c'est communiste, mais je pense pas que ce soit honnête de le dire.
Bon, alors ne le disons pas. Est-ce qu'on peut rapprocher aussi les mèmes du sample en musique ?
Il y a quelque chose où ça participe plus largement au même mouvement culturel, avec cette culture du détournement, de la réutilisation, peut-être un sentiment que beaucoup de choses ont déjà été faites et on va s'appuyer sur ce qui a été fait avant plutôt que de vouloir renouveler des formes sans conscience du fait qu'elles ont déjà existé avant. Et aussi parce que ça part dans les deux cas de personnes qui ont des moyens limités. Donc dans le sample des généralement les cultures noires américaines qui, pour créer des musiques, n'avaient pas forcément toute la production. Donc elle allait reprendre celle qui était déjà faite à partir de disques, généralement des disques pas chers de disco. Et de l'autre côté, Internet, avec les outils rudimentaires d'édition numérique, qui n'étaient pas ceux des personnes, des graphistes installés dans les grosses boîtes de production. Donc il y a cette même origine des moyens limités assez populaires, et cette culture de la référence en permanence. Alors dans le même en particulier, elle a pris une importance encore plus centrale, mais le fait que les deux s'accélèrent, aujourd'hui on voit en musique David Guetta, passion apparemment, nostalgie, cette réutilisation, on l'a aussi en comédie musicale par exemple, où il y a une prise de risque à créer quelque chose d'entièrement nouveau, donc il y a une réutilisation souvent de du répertoire d'un artiste, Claude François, France Gall en France, aux États-Unis Michael Jackson, Cher, Diana Ross, etc. Abba, Mamma Mia.
Allez, est-ce qu'il y a une typologie de mèmes ? Est-ce qu'il y a des canevas, des formes consacrées qu'on reconnaît, qu'on peut identifier, on peut dire ça, c'est tel type de mème ?
Il y en a beaucoup selon si on se place du point de vue du chercheur ou celui des personnes qui créent des mèmes. Chez eux, un des formats les plus connus, en tout cas, c'est l'image macro. C'est ce format qui est vraiment, je pense, synonyme de mème pour la plupart des gens, avec une image souvent qui a souvent été réutilisée, avec en haut et en bas du texte en blanc, police impact, en lettres majuscules.
Et donc, ça veut dire que si on sort de ce cadre, par exemple, si on met une police de couleur, c'est plus un mème ?
C'est que c'est un choix esthétique à nouveau. Et donc les choix esthétiques, c'est déjà un choix humoristique en quelque sorte. Ça veut dire qu'on fait activement le choix de ne pas réutiliser le format standard. Est-ce qu'il n'aura pas forcément un nom ? Mais les gens vont instinctivement ou consciemment comprendre qu'il y a un choix qui a été fait à cet endroit-là. Et donc tout n'a pas un nom, mais beaucoup de choses en fait ont déjà un nom. Il y a un site qui s'appelle knowyourmeme.com qui est extrêmement utile, qui est fourni un peu comme Wikipédia par les personnes et entretenu par les personnes. Où les gens catégorisent des mèmes, les répertorient. Répertorient notamment aussi s'ils sont des mèmes dits plantés, des faux phénomènes, comme si une marque, par exemple, avait voulu créer le buzz autour de sa marque. Les gens vont catégoriser en disant ça a été un faux buzz qui a été monté de toutes pièces. Donc, reliquat de cette culture anti-marque, anti-industrie du début de la culture Internet.
Et allez, pour les plus anciens qui nous écoutent, est-ce qu'on peut mentionner les lolcats ?
On peut tout à fait. Alors, je ne suis pas le premier défenseur de cette forme de mème, mais les goûts et les couleurs.
Voilà, est-ce qu'on peut dire ce que c'est quand même ? Parce que les plus jeunes, peut-être, ne vont pas savoir.
Bien sûr. Les lolcats, du coup, qui étaient un format extrêmement populaire, je ne peux nier cela, autant que le Gangnam Style, puisqu'il coïncide temporellement, qui mettait en scène des photos de chats, généralement avec des émotions proches d'émotions humaines assez intenses, qui étaient associés à des textes avec des déformations qu'on attribuait à des chats, le fait de mettre des Z partout, une conjugaison particulière et des textes humoristiques. Mais peut-être que tu souhaites...
Me demande si c'était genré, en fait. Est-ce qu'il y avait peut-être plus un public qu'un autre qui faisait ça
Je saurais pas dire, mais j'ai pas l'impression que c'est au mieux la culture... Il y a une critique qui a été faite, en tout cas à la culture internet, qui était qu'elle était faite pour les hommes, mais pas forcément consommée par les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait une présupposition que sur Internet, tout le monde est un homme. Une des phrases connues, c'était « show boobs or get the fuck out ». Donc, montre tes seins ou casse-toi. Par défaut, tout le monde était un homme, mais donc la culture était supposée être produite et faite pour des hommes, alors qu'en réalité, il y avait beaucoup de femmes sur Internet, mais dès qu'elles annonçaient en être une, elles étaient exposées à un traitement particulier, on leur supposait des goûts particuliers alors qu'elles consommaient la même chose que leur père masculin. Donc elles regardaient probablement des lolcats tout autant que les hommes.
D'ailleurs, cette idée que Internet c'est fait pour les hommes et par les hommes, ça exclut peut-être, on va dire pour les hommes hétéros alors, parce que c'est curieux comme idée de...
Il y avait vraiment, de façon non dite, par exemple, si on allait sur NanGag vers 2010, et je l'ai fait, il y avait des stéréotypes qui étaient là, mais qui ne s'annonçaient pas exactement. Donc on avait un mème très connu qui s'appelait Good Girlfriend Gina, qui était un mème qui mettait souvent en scène des comportements qui étaient considérés comme désirables chez une copine, mais en fait, le pendant masculin n'a jamais vraiment pris. C'est-à-dire que la femme, on avait des injonctions à qu'est-ce qu'une bonne copine devrait être, mais on n'avait pas vraiment le pendant masculin. Pourtant, il y avait tout en tout cas, il y avait une portion non négligeable de femmes sur NanGag, mais elles n'étaient pas prises en compte dans la création de la culture à ce moment-là.
Eh bien, je te propose, sur ces bonnes paroles, de faire une première pause musicale, et ça tombe bien, parce que tu as choisi justement des sons. Alors, que va-t-on écouter en premier lieu ?
Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
Allez, on écoute ça et on se retrouve tout de suite dans la Méridienne. Et oui, vous venez d'écouter le choix musical de mon invité, Soufiane Chafik, qui est doctorant au laboratoire Prime. Donc ça se trouve à l'IUT de Tours. Alors je crois que tu voulais préciser pourquoi tu as choisi cette chanson.
Oui, car je trouve qu'elle a un rôle assez particulier dans la culture mémétique. C'est-à-dire qu'elle arrive, déjà c'est un lien, donc comme je le disais plus tôt, c'est assez exceptionnel. Il y a des formes variées au même, oui, mais d'avoir, que ça prenne la forme d'une pratique, où on n'est pas juste en train de voir quelque chose, d'être récepteur passif, on doit faire que... on est activement impliqué dans la création du même en quelque sorte. Et ça, je trouve ça assez unique. Et le fait que ce soit britannique et européen en particulier, ça dit quelque chose de la façon dont la culture mémétique s'est construite. Beaucoup des musiques qui sont utilisées dans les mèmes sont des musiques non verbales. Et même si cette chanson a des paroles en anglais, il y avait un décentrement de... C'était pas une culture uniquement américaine, la culture mémétique. Et ça se sent dans les chansons. Une chanson très connue, Trololo, par exemple, qui était un chanteur russe. Une chanson finlandaise, Levas Polka. Beaucoup de chansons, en fait, ont des paroles qui n'ont pas d'importance. L'important, c'est la musique qui unifie les personnes par-delà la barrière de la langue sur un Internet mondial. Et ça représente un peu une forme d'utopie pour les années 2000, ce fait d'être connecté et de créer cette culture à part, au-delà des frontières nationales.
Oui, ça a aussi des résonances particulières à notre époque, de fédérer les gens au-delà des frontières. Hélas.
Il y avait un idéal qui, aujourd'hui, en tout cas, a un petit peu changé. Les gens se sont habitués, des personnes qui avaient... À mesure que plus de personnes rentrent dans un groupe, c'est difficile de maintenir des valeurs communes. Donc avec la mainstreamisation, donc l'arrivée de beaucoup de gens sur Internet, la culture numérique s'est modifiée, elle ne pouvait pas rester telle qu'elle. Et ces valeurs-là se sont un peu perdues. Il y a une domination aujourd'hui un peu plus forte, je pense, des États-Unis sur la création de la culture numérique mondiale.
Comment on appelle une personne qui fabrique des mèmes, un mèmeur?
En français, ils disent un... Ah, comment ils disent déjà?
C'est toi l'expert, je te demande.
je bug, je suis certain. Il y a des termes évidemment, mais là tout de suite ça me...
Et du coup en langue anglaise, comment on dirait?
Mais vraiment, le bug complet, je saurais plus dire.
Peut-être que ça n'existe pas, hein, mais t'as si quand même, tu dois...
Si, il y a complètement des termes, mais il y avait les meme lords, mais ça, c'est pas exactement le terme générique pour désigner... quelqu'un qui fait des mèmes, peut-être que ça me reviendra plus tard, je le souhaite. Voilà.
Si ça te revient en cours d'émission, n'hésite pas à dire « Ah, je fais un rembobinage ici ». Bon, peut-être qu'on peut se pencher juste sur comment ça fonctionne ce mème dont tu nous les as décrits avant notre pause musicale, et peut-être qu'on peut se pencher sur le phénomène, attention, je vais dire un gros mot, d'intertextualité.
Ah. Alors moi je suis aux anges, car c'était mon sujet de mémoire de M1 et de M2. J'ai un peu coupé cette partie-là parce que personne ne veut entendre ma vie en entier, mais je vais vous la dire quand même. Et en fait, la question de l'intertextualité a été ma passion quand j'étais en master, donc pour définir évidemment ce que c'est. Des personnes ont théorisé l'idée que dans certains textes, il y avait des références plus ou moins explicites à d'autres textes. Donc déjà, faire une citation, c'est reprendre ce que quelqu'un d'autre a dit. Ça dépasse la question des textes au sens où on l'entend de façon commune. Un texte, c'est vraiment toute production de sens, verbal, oral. Créer une image, c'est déjà en quelque sorte faire un texte. C'est des éléments qui sont agencés, comme dans un paragraphe, pour créer un sens global. Et donc la culture d'aujourd'hui, de plus en plus, a créé ces références-là. Donc on cite les autres, on sample les autres, on reprend des images, on détourne des images. Tout ça, c'est de l'intertextualité. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler sur les mèmes, c'est parce que c'est vraiment des exemples qui exemplifient le mieux ça. On reprend des extraits de séries télé, White Lotus en ce moment beaucoup, par exemple.
Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait préciser sur la relation entre le texte et l'image d'un mème?
Il y a plusieurs types de relations qui existent, et je pense que c'est ce qui fait la force du mème, c'est qu'ils peuvent être construits de façon très différente, et pourtant, ça reste un mème. Donc on va avoir des mèmes, par exemple, où c'est clairement l'image qui est importante, parce que l'image est tellement drôle, on a envie de la réutiliser, elle vaut pour elle-même. On a des mèmes où c'est l'image, par exemple, c'est White Lotus, on a envie de s'insérer dans la tendance du fait que tout le monde parle et regarde White Lotus en ce moment. Alors peut-être que j'exagère et qu'il n'y a que moi qui regarde, mais En tout cas, et donc l'image va être au devant, et le texte est presque un prétexte pour se joindre à la communauté des gens qui en parlent et qui utilisent cette image-là. Au contraire, des fois, on a plutôt des textes qui vont être réutilisés. Par exemple, moi, quand mon frère me parle, mais que j'en ai complètement rien à faire. Et donc, cette phrase-là, elle va être réutilisée en permanence, et les gens vont chercher des nouvelles façons de l'illustrer. Donc là, l'image arrive après, elle est juste le renouveau comique de la situation.
Mais est-ce qu'il y a toujours un décalage entre le texte et l'image ?
Normalement, il faut. Sinon, c'est un documentaire.
Sinon, c'est une légende, quoi. On légende l'image.
Exactement. Et même les légendes, aujourd'hui, ont pris ce truc très mémétique de créer une sorte de mini-contraste. Mais vraiment, c'est ce contraste, oui, il est important. En fait, c'est ce qui a fait le passage des mèmes des années 2000-2010, début, où on a cette image qui est tout le temps réutilisée avec un texte. Et ce contraste a été tellement pris comme étant la définition du mème qu'on a fini par appeler les mèmes sur ce principe qu'il y a un contraste entre le texte et l'image. Même si c'est une image qu'on n'a jamais vue, que c'est une phrase qu'on n'a jamais entendue, le fait qu'on sent qu'il y a un décalage entre la source de l'image et la source du texte, c'est ça qui maintenant fait qu'on appelle ça un mème souvent.
Est-ce disons qu'un mème peut être doublement référencé, c'est-à-dire donc je prends une image de White Lotus par exemple, et dessus je vais coller une citation par exemple d'une chanson, d'autres choses de connues, donc de rassembler deux choses.
On est à des niveaux de patchwork qui méritent d'être au musée des arts modestes, vraiment, ou des arts prétentieux, parce qu'il y a des niveaux de complexité mémétique, des références sur des références, des couches qui deviennent opaques à tout le monde sauf leur créateur. Donc j'avais travaillé par exemple sur ces mêmes Gossip Girls-là, et parmi eux, donc on avait ces têtes-là des personnages principaux de la série qui étaient transformés en méduses. Donc le premier était transformé en méduse et la deuxième était pétrifiée. Donc on a cet empilement de Gossip Girl sur la mythologie grecque. On avait elle qui avait fumé un joint. On a parfois, là c'était des images, mais on peut même imaginer qu'il y a une musique qui va se rajouter derrière. Il y a des niveaux de tricotage des références qui sont assez exceptionnels.
Et en fait, ça sert à quoi un mème ? Est-ce que c'est juste de l'humour ? Est-ce que c'est un humour toujours un peu méchant ou pas forcément ? À quoi ça sert ? Ou alors est-ce que c'est juste pour faire du shitposting ? Ça sert à quoi un mème ?
À rire. Non, vraiment, ça sert effectivement souvent à se moquer. Donc en humour, il y a trois théories principales. Celle dite de l'agressivité ou la supériorité. Les Grecs considéraient, pour revenir à eux, qu'il y a une forme de bassesse dans les passions du rire, parce que souvent elle consiste à se moquer de quelqu'un. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, des oppositions binaires entre les méchants et les gentils, eux, ceux qui ne comprennent pas et ceux qui comprennent. On va opposer deux choses et souvent il y a une des deux qui est négative. Et c'est des personnes en l'occurrence. Mais il y a aussi d'autres mécanismes comme la tension. Souvent, on considère que l'humour sert à soulager des tensions. Quand on regarde un spectacle de stand-up, par exemple, on sent la blague monter. Et en fait, le public a envie d'éclater. C'est tout le travail de l'humoriste, c'est de gérer cette tension-là avant cet éclatement du rire. On parle de rire nerveux, mais de manière générale, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, il a un rôle de soulagement. On appelle ça aussi la théorie du soulagement. Et donc, c'est pour ça que les mèmes et l'humour, sur Internet en particulier, jouent ce rôle presque d'anesthésiant, où on sait qu'on va en ligne et on va rire et on va pas penser à autre chose pendant un moment parce qu'on est constamment soulagé par cet afflux de mèmes. Donc il y a un rôle psychologique important.
Mais du coup, est-ce que on peut dire, à défaut de troller avec des mèmes, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt un pare-feu s'il y a un troll, par exemple, sur un forum ou dans une discussion, de dire, je vais justement mettre un mème pour... contrebalancé des messages agressifs ou quelque chose comme ça.
Ça peut être ça, ça peut être contrebalancé ou même balancer le message agressif. Il y a plein de mèmes qui sont très agressifs. L'un des premiers, c'était une chouette, par exemple, qui disait « Oh, really ?» Donc « Ah, vraiment ?» qui servait en fait à mettre en cause la crédibilité de ce que la personne disait. Donc c'était très clairement agressif. Et aujourd'hui, c'est pas aussi direct, mais tu parlais de shitposting juste avant. Donc c'est des posts qui souvent en fait ont pas beaucoup de sens, jouent sur une ironie à degré élevé et qui font référence à des choses très particulières et qui souvent sont faites pour être mal interprétées par un groupe entier de personnes. Donc on va quelque part manipuler un peu tout ce groupe de personnes dont on sait qu'il ne va pas comprendre la référence, on va faire une référence au salut nazi d'Elon Musk et on va le tourner d'une telle façon que certaines personnes vont vraiment croire qu'on adhère au salut nazi d'Elon Musk, mais en fait non. Donc même si l'intention derrière n'est pas d'adhérer à ce message-là, ces personnes-là, elles manipulent des émotions négatives chez d'autres personnes. Donc il y a bien quelque chose d'agressif parfois là-dedans.
Est-ce que, est-ce que tout à l'heure tu parlais du copy-pasta, donc d'un texte à copier-coller là, est-ce que en fait c'est la même logique par exemple sur les chaînes qu'on peut trouver, j'interdis à Facebook de récupérer mes photos et je sais pas quoi, et en fait les gens partagent ce truc.
Il y a un pouvoir plus général de la citation, de la circulation de ces choses-là telles quelles. Même par exemple, ça arrive souvent, il y a des citations qui sont très très connues, les gens ne savent même pas d'où ça vient, ou le proverbe tout simplement. Il y a une force en fait à ces espèces de textes pré-préparés, dont sur lesquels les mèmes se reposent lui aussi. Et donc le copypasta, il joue sur cette force de la familiarité. On sait que c'est quelque chose qui a été éprouvé, c'est le principe du proverbe. Si la forme du proverbe existe depuis aussi longtemps, c'est qu'elle doit bien contenir une sagesse populaire. Et en même temps, il y a toujours cette dynamique de, pour le copypasta, c'est un bloc de texte qui n'a aucun sens si on ne sait pas d'où il vient. Donc il y a ceux qui sont dans la blague et ceux qui ne le sont pas.
Mais du coup, ça appartient à cette logique, ces messages, ou alors les chaînes de « si tu ne partages pas ce poste, je sais pas, des trois chatons vont mourir » ou des trucs comme ça, c'est pareil.
Ceux qui sont sérieux, du coup, les chaînes vraiment sérieuses ? Par exemple, j'interdis WhatsApp de...
Oui, mais est-ce que c'est vraiment sérieux ? Du coup, la personne qui lance ça, elle y croit vraiment ? Ou à la base, c'est une blague ? Et du coup, c'est...
Je pense que la personne qui le fait, c'est comme le shitposting, où elle a des intentions malicieuses. Et derrière, il y a des personnes qui, hélas, par manque de littératie médiatique, y croient. Et elles, pour le coup, sont juste sincèrement dupées.
Et alors, cette idée aussi de... si on peut considérer que les mèmes peuvent servir à troller, est-ce que ça peut être utilisé aussi par des militants ou des militantes d'un bord ou de l'autre ?
Ça l'a été beaucoup, ça fait depuis le milieu des années 2010, c'est une récupération assez... une politisation assez évidente des mèmes, qui l'ont toujours été d'une façon indirecte, comme tout à l'heure on mentionnait le caractère sexiste en fait, de la conception même de l'espace des mèmes, de là où ils circulaient, mais là ils sont devenus beaucoup plus activement politique, donc qui servait à commenter l'actualité, à commenter la politique. Vous allez sous le compte de BFM TV sur Twitter ou de Serfia, donc des pages qui postent des infos politiques, et il y a très très souvent des mèmes en réponse sur des sujets parfois extrêmement sérieux. Et ils ont été aussi utilisés de façon claire pour propager des idées d'extrême droite, enfin de l'alt-right aux États-Unis puis de l'extrême droite en France.
Là, ce qu'on voit dans cet exemple-là, comme dans d'autres sûrement, c'est qu'il y a aussi cette idée donc de faire rire, mais aussi peut-être de fédérer, de se dire, bah, tiens, les références, la blague que je vais mettre, ça va être compris des gens qui partagent mes idées, qui partagent mon cadre de référence, on va dire, ma culture.
Oui, c'est vraiment, c'est l'un des cœurs du mème, c'est cette question de ce qui nous rassemble et ce qui nous éloigne. Donc ça va être à travers les références qui sont utilisées, t'as la ref ou t'as pas la ref, tu appartiens au groupe qui l'a ou qui l'a pas, mais aussi les expériences qui sont montrées, quand dans tout ce qui est les mèmes, il y a beaucoup de mèmes qui mettent en situation, par exemple moi quand je vais à l'école, et donc l'expérience qui est montrée, c'est une expérience qui rassemble. La personne va mettre en scène quelque chose qu'elle suppose que d'autres personnes ont vécu, on dit que c'est relatable, que c'est une expérience à laquelle les autres peuvent s'identifier. Donc ça va être et les formes et le fond, les deux sont, on va chercher à créer du lien avec les autres.
Et sur ce qu'était Facebook, si d'aventure parmi nos auditeurs des personnes utilisent encore RIP, il y avait des groupes Nurchi de même de je sais pas de Bourdieu de plein de choses. Et donc ça c'est quoi un Nurchi ?
Je ne suis pas le grand spécialiste, mais si je ne m'abuse, c'était des groupes du coup ou des pages dans certains cas Facebook sur lesquels les gens repartageaient des mèmes ou créaient des mèmes qui venaient d'ailleurs. Alors le terme de nurchi à l'origine, donc verlan de chineur, de la pratique de brocanter, chiner, allait dégoter, parce qu'il y avait cette idée, comme dans la culture des numériques des années 2000, que les mèmes n'appartiennent à personne et qu'ils sont juste là pour circuler. Ils disaient quand même qu'ils les avaient volés, donc ils prenaient un mème quelque part et le republiaient si ça c'était cohérent avec le thème du nurchi. Donc il y avait des nurchi de Tintin, des nurchi de Somalie, des nurchi de surfeur dans la petite ville d'Aveyron, ça ne veut rien dire, mais dans l'idée. Donc il y avait une surspécialisation de tous ces nurchis-là et les gens republiaient ou créaient des contenus pour eux. Et donc c'était une logique assez différente et je crois une logique très française, en tout cas francophone. Il n'y a pas eu un développement aussi grand de groupes sur Facebook qui servaient à partager des mèmes dans les pays anglo-saxons.
Et donc là, c'est, disons que c'est un intérêt, on va dire un intérêt spécifique, et c'est de dire, là, c'est une groupe sur Facebook, Nurshi de quelque chose, il n'y a pas forcément de lien avec une classe sociale, une catégorie socio-professionnelle, bon, un âge sûrement, un genre pas forcément, mais c'est des gens qui ont un intérêt commun, en fait.
Exactement, ça a été toute la promesse de l'Internet depuis les années 2000, c'était de rassembler des gens autour d'intérêts. Et ça accompagnait un autre mouvement qui était celui de l'effacement de la culture, de la monoculture. Donc avant, là où tout le monde regardait la télé, il y avait 6 chaînes. Progressivement, en fait, il y a une diversification de l'offre, d'abord par la télé, mais ensuite via Internet. Tout le monde peut regarder ce qu'il veut, quand il veut. Et tout le monde peut se connecter à des personnes qui partagent leur intérêt. Donc moi, si j'adore la comédie musicale, c'est factuel, je peux aller sur Twitter et chercher des mots-clés et me mettre en contact avec ces personnes-là. Et on va pouvoir créer notre propre communauté, créer nos propres références, dans la façon qui est celle de notre époque, les mêmes.
Tout à l'heure, tu disais sur des mèmes qui peuvent ne pas être compris parce que tu n'as pas la ref. Il y a un côté un peu snob, en fait. Hein, est-ce que c'est du snobisme online ?
Oui, vraiment, les personnes sur Internet sont des personnes répugnantes de snobisme. Il y a toujours eu cette pratique qui consistait à dire « mais toi, t'es pas un vrai ». Pour tout, comme pour la musique, mais t'es pas un vrai fan de Metallica, si jamais tu ne peux pas me citer la dernière chanson de leur 4e album, eh bien c'est la même chose pour les mêmes. J'espère que Metallica a 4 albums. En tout cas, il y a la même chose pour les mêmes et pour toutes les formes de pratiques culturelles, en fait, où il y a ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est un mème. Ah, mais ils appellent tout et n'importe quoi un mème, vraiment, maintenant. Ah, mais toi, t'as pas compris ça. C'est une dynamique qui est très, très importante. Pour qu'on rassemble des gens dans un groupe, il faut qu'il y ait des gens qui y soient pas. C'est parce que les groupes existent parce qu'il y a des gens qui n'y sont pas.
Oui, c'est comme, disons, un équivalent de citer comme ça, dans une conversation, une phrase de Proust, par exemple. C'est du même ordre.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
Par exemple. Là, on voit dans l'assistance qui a saisi...
toute la salle de Radio Campus.
Bien sûr, là, tout le monde hoche, opine du chef et tout, en entendant ça. Voilà, c'est du même ordre, en fait.
C'est exactement du même ordre. En fait, le même reprend des logiques qui existent partout ailleurs. C'est juste qu'il est d'une complexité qui fait qu'il met toutes ces dynamiques en un seul objet. Et parfois, pas exactement le même, mais la sphère du même, en tout cas, regroupe toutes ces choses-là qui existaient avant. Donc, c'est logique de pratique culturelle de gatekeeping, on appelle ça, le fait de garder ce que doit être un vrai fan de quelque chose. C'est logique de groupe, de communauté, tout ça, ça existe en dehors, mais le même, en fait, les exemplifie. C'est pour ça que je voulais travailler dessus. C'est que c'est une bonne loupe sur le monde.
Est-ce que c'est traduisible, un même ?
Souvent. Souvent, il y a énormément de mèmes qui sont traduits, oui, copier-coller. Surtout que il y a quand même une assez grande division des espaces francophones et anglophones. Sur TikTok, par exemple, on trouve des copier-coller des légendes anglaises qui sont pompées directement en français. Dans l'autre sens, c'est un peu moins commun, je pense.
Et puis, comment dire ? Là, je me tourne du côté de la Chine, parce que c'est Weibo, je crois, en Chine, donc il y a certains réseaux sociaux qui ne sont pas accessibles de ce côté-là. Du coup, est-ce que les mèmes existent de la même façon, ou est-ce qu'il y a une logique différente, ou est-ce que ça ne change rien ?
Il y a des... Dans tous les cas, les sphères culturelles et linguistiques développent leur set de références propres. Donc on a en France, par exemple, toute une culture du mème... vidéo, edit, remix. Par exemple, la phrase de Macron pendant les présidentielles 2017, Poudre de Perlimpinpin, avait donné lui un remix. Je suis pas venu ici pour souffrir, avait donné lui un remix. C'est quelque chose, encore une fois, de très français. Il n'y a pas tant que ça, cette culture-là, dans les anglo-saxons. Et la Chine, c'est pareil. Alors, je suis pas du tout spécialiste, mais ils ont vraiment leur set de références, des archétypes que nous, on n'a pas du tout. Récemment, je crois avoir lu un article, par exemple, sur la figure du loser, qui est devenue une figure très importante dans les mèmes chinois. Un peu comme nous, on avait la pick-me en France, qui était cette figure d'une fille qui veut absolument se démarquer des autres et qui, du coup, souvent rejoue des stéréotypes sexistes. Les Chinois, pareil, ont leurs propres archétypes qu'ils mettent en scène en permanence dans les mèmes et pas seulement.
Eh bien, je te propose de faire une seconde pause musicale dans cette émission. Que va-t-on écouter ?
Nous allons écouter un thème qui pour certains sera nostalgique et pour d'autres sera juste la musique d'accompagnement de TikTok. Ils vont se dire « Ah, c'est de là que ça vient !» qui est le thème de Oui Music.
A tout de suite sur Radio Campus Tours dans la Méridienne. Merci pour cette pause musicale nostalgique pour certains, TikTok pour d'autres. Voilà, c'est ainsi que tu l'as annoncé, Soufiane. Donc je rappelle, Soufiane Chafik, doctorant au laboratoire PRIME à l'IUT de Tours. Donc c'est pratiques et ressources de l'information et des médiations. Une thèse qui porte sur les mèmes avec un accent grave. Et alors, les mèmes, donc, tu l'expliquais, c'est lié à Internet, évidemment, mais est-ce que ça reprend des formes esthétiques qui existaient déjà dans un monde où il n'y avait pas Internet ?
Complètement. On avance sur les épaules des géants en science, mais aussi en esthétique. Et on a, par exemple, retrouvé un dessin de presse dans les années 20 qui reprend exactement un format mémétique d'aujourd'hui, où c'était un homme qui est dessiné de façon très... simple, avec marqué ce à quoi vous pensez que vous ressemblez et ce à quoi vous ressemblez. Donc quelque chose qui est frappant de modernité pour les années 1920, mais qui a exactement le format. Pour d'autres choses, on a toujours eu ces espèces d'objets qui circulaient. La personne qui a créé cette théorie, qui a donné lieu au terme même dans un sens assez différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, qui voulait faire du même toutes ces unités culturelles-là qui circulent en fait de personne en personne. Donc une comptine, par exemple, que de génération en génération se chante et qui circule comme ça dans la culture en se modifiant et en survivant. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore présent. Le dessin de presse, par exemple, donc est une des grandes inspirations, la caricature, beaucoup. On reprend en fait des codes qu'on connaît déjà pour créer de nouvelles choses.
Ça fait penser aussi, disons, à l'art des conteurs, de dire finalement l'histoire, tout le monde la connaît. Mais elle est encore racontée. Et ce qui est intéressant, ça va être les ornements que le conteur ou la conteuse va ajouter. On sait comment ça finit, la personne, elle a une façon. Ce conteur-là, il va ajouter cet élément, lui, elle va raconter de façon autre.
C'est exactement ça. Oui. C'est la même chose aussi pour les blagues. Par exemple, on sait très bien comment une blague générale va se dérouler, on connaît le mécanisme. Et il y a juste une petite partie qui change. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est d'avoir cette nouvelle variante. Tu parlais de conteur, j'ai grandi partiellement avec les histoires d'un personnage qui s'appelle Shah en arabe, qui est une sorte de personnage très commun dans les contes du monde arabe, auquel on attribue une personnalité assez stable, comme les mèmes en fait. On va juste le mettre dans des situations différentes, c'est un peu le Toto arabe en quelque sorte. Et les mèmes, c'est un peu pareil, on a des formats qu'on connaît très très bien, juste on change quelque chose et ça suffit à déclencher une nouvelle perspective.
Il y a des gens qui sont plus ou moins talentueux, et je pense que c'est pareil pour les mèmes. On va te dire, il y a des gens, on va aller voir leur mème parce qu'on sait que ça va être drôle, qu'il y aura vraiment une patte, une façon de faire. Et dans l'art du conte, c'est pareil, il y a la personne qui a le talent aux deux.
Complètement. Il faut trouver le juste milieu entre le degré de familiarité, quelque chose qu'on comprend absolument pas, ça demande trop d'efforts, surtout pour les mèmes qui étaient faits pour être produits et consommés rapidement. Il faut qu'il y ait un degré de familiarité et il faut qu'il y ait le bon degré d'originalité aussi. Et donc, c'est un peu le passage qui s'est fait dans les années 2010 avec Instagram, qui est construit sur un système de pages, faisait qu'on allait voir des gens qui produisaient des mèmes. C'était pas des choses qui circulaient sur un espace commun, comme sur InGag ou sur Twitter. Il fallait aller voir quelqu'un qu'on avait cherché pour voir ces mèmes. Et du coup, ils ont progressivement développé une sorte de patte, comme une marque qui aurait ses propres codes, avec des signes éditoriaux, donc par exemple Mème Décentralisé, qui est un des plus connus en France, qui est une page sur Instagram d'abord, mais qui après s'est répandue ailleurs, qui fait des mèmes sur toujours le même thème, partout sauf Paris. Donc on a un thème régulier, on a un style régulier, ils utilisaient toujours cette police en jaune en particulier. Il y avait des références qui revenaient souvent, le boulanger, sa femme, sa fille, en particulier couché apparemment avec la fille du boulanger, c'était le grand truc. J'ai grandi à Paris moi, désolé. Il y avait pourtant des boulangers, bref. Mais en tout cas, il y a cette patte et on vient pour aller voir ce que c'est cette personne-là parce qu'on sait que ça va être drôle.
Est-ce que c'est la circulation, le nombre de repostes qui fait le succès d'un mème ?
Je pense. C'est très difficile de mesurer l'impact que les choses ont dans la culture. Est-ce que quelque chose a de l'impact parce que ça fait 10 ans qu'il est là ? Est-ce qu'il a de l'impact parce que tout le monde s'en souvient alors qu'il n'existe plus ? C'est une question extrêmement difficile avec laquelle je lutte un peu dans ma thèse, de comprendre qu'est-ce qui a de l'importance finalement pour les gens ? Qu'est-ce qu'on en retient de tout ça ?
Et alors, quand même, faut le dire, c'est un peu triste, mais le même se périme. Donc, il y a des trends. Qu'est-ce que tu voudrais dire de ça ?
Je suis désolé pour tous ces mèmes qui sont au cimetière aujourd'hui. Sachez que pour beaucoup, vous êtes encore quelque part dans ma tête. Je ne sais pas ce que les autres retiennent, mais moi, je ne vous oublie pas, pour citer une autre chanteuse. Et il y a des modes, comme dans les vêtements. Il y a même des graphiques qui existent sur la vie des mèmes exactement, avec, exactement comme pour les vêtements. Une première phase où il y a les personnes qui adoptent rapidement une tendance, puis d'autres qui la prennent en cours de route, puis des gens qui finissent par s'en servir de façon ironique, et enfin, la mort, pour le même. C'est comme tous les objets culturels, finalement.
Ça veut dire qu'à la fin, c'est devenir un objet d'étude, un objet de thèse?
La fin, c'est disparaître. Moi, je crois que je suis encore quelque part où la courbe n'est pas au zéro, mais oui, probablement, pour certaines... Ça fait 10 ans qu'on nous diagnostique la mort du mème. C'est pas entièrement faux, puisque le mème a tellement changé qu'on peut se demander si c'est encore la même chose. Est-ce que la banane pourrie partage quelque chose de la graine qui l'a fait naître? C'est une métaphore un peu étrange, mais c'était mon cours de philosophie à Londres, lors d'un Erasmus qui a duré 2 mois et demi. Et en tout cas, le mème a tellement changé, on ne sait pas si... C'est presque incroyable qu'on arrive encore à l'appeler mème, mais je ne pense pas qu'il va disparaître. Il a plus ce pouvoir qu'il avait avant d'attraction. Quand quelque chose est neuf, un peu comme un nouveau mot d'argot, on est fier de dire... Alors désolé, c'est déjà daté maintenant, mais choc barre. Quand le mot est sorti, les gens étaient très fiers de le placer. Aujourd'hui, un peu moins. Il va soit se normaliser, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la langue. Aujourd'hui, on dit j'ai le seum, personne n'y pense 2 fois. C'est juste une expression qui existe dans la langue. D'autres, au contraire, juste disparaissent complètement. C'est difficile de prédire aujourd'hui où est-ce que le mème va se dessiner, juste à se normaliser ou à disparaître.
Mais alors cette durée de vie putative du mème, elle est la même sur tous les réseaux sociaux, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent selon qu'on poste un mème, ou même dans la façon dont ils sont conçus, dans la grammaire du mème, disons, est-ce qu'elle est différente sur Instagram, sur Twitter, enfin, X maintenant, sur LinkedIn, sur Reddit, que sais-je ?
Complètement. Il y a des circulations, des intertextualités entre les différents réseaux sociaux, mais il y a 2 choses, c'est qu'ils ont une culture propre et une architecture propre. Pour citer mes directeurs de thèse, David et Gustavo, Douillère et Gomez Meria respectivement, il y a un architecte, c'est-à-dire que le site est construit d'une certaine façon qui nous permet d'écrire, donc de produire des choses dessus ou non. Donc Twitter, par exemple, avait de façon très centrale cette fonction de retweeter, de republier. C'est une fonction qui n'était pas du tout autant mise en avant sur Instagram et sur Facebook. Ce que ça a fait, c'est que même si c'était quelqu'un dont on n'avait jamais entendu parler, il est arrivé dans notre fil d'actualité. À l'origine, Instagram n'avait pas du tout ça. On voyait seulement le contenu des personnes qu'on avait suivies. Donc ça implique des circulations très différentes des contenus dessus. Instagram était évidemment quelque chose qui mettait en avant les images, ça avait été construit pour. Là où Twitter était quelque chose qui mettait en avant le texte. Les possibilités ne sont pas les mêmes sur l'un et sur l'autre. Donc ça a donné lieu à des cultures et à des types de mèmes différents. Ce qui a fait que, par exemple, quand les personnes d'Instagram voulaient voir quelque chose qui était un mème sur Twitter, ils faisaient une capture d'écran pour que ça devienne une image, et ensuite ils la publiaient sur Instagram. Et donc on a cette espèce de circulation-là avec des choses qui sont possibles ou non, et juste des habitudes, des cultures propres, comme la France où le français a ses propres habitudes culturelles. Instagram et Twitter aussi, et TikTok.
Donc c'est-à-dire que c'est aussi générationnel, la façon de faire des mèmes.
Complètement. Il y a, encore une fois, comme la mode, vraiment, pour moi, c'est vraiment une comparaison qui marche très 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 bien. Quand on essaye de penser les mèmes, il y a des choses qui arrivent, qui viennent, c'est pas de façon délimitée, c'est pas parce qu'on a 25 ans hier, c'est pas mon cas, qu'on va faire les mêmes d'une certaine façon, mais oui, il y a des tendances, les jeunes ont tendance à avoir certaines références, ont grandi avec certaines pratiques, ou non. Au contraire, ont été saturés très tôt de certaines pratiques. Tout le monde ne passe pas la même quantité de temps sur Internet. Donc tout ça, ça influence comment on fait les mèmes.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des dad jokes en termes de mèmes ?
Complètement, et ça m'a fait rire très 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 longtemps, aujourd'hui encore d'ailleurs. Un de mes préférés, c'était toute cette série de mèmes d'interprétation très littérale. Alors là, tout de suite, j'arrive pas à en citer un, mais c'est l'équivalent de vous voulez un doigt de whisky, pourquoi pas 2 ? C'est où hélas ça m'échappe, c'est toujours quand je peux faire rire quelqu'un que les mots m'échappent.
Enfin bon, voilà, Et alors, j'ai trouvé, préparant cette émission, l'expression, alors je vais le dire en franglais, hein, après tout, pourquoi m'en priver, « dank même ».
Oui, alors c'était un type, un format de mème qui a émergé vers le milieu des années 2010, qui surjouait une sorte de saturation, donc cette esthétique dont on a parlé tout à l'heure du moche sur Internet, et qui en fait l'a poussé un peu à l'extrême. Donc les couleurs étaient très 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 vives, agressives presque, il y avait cette laideur qui était exagérée, et des thèmes qui étaient assez patoches. Je dois dire, je suis pas le plus familier, donc je ne vais pas développer plus que ça là-dessus.
Voilà, et ben voilà, auditeur auditrice, vous chercherez ça vous-même sur les internets. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ce que vous aurez découvert à propos des dank même. On va rester sur les dad jokes, alors ce que c'est pas mal aussi. Et pour ce qui est de ta thèse, alors. Il y a une enquête en ligne. Là, tu as lancé une enquête, donc on peut la trouver à divers endroits, entre autres sur LinkedIn, mais peut-être voudrais-tu nous en parler ?
Oui, alors ça fait partie du coup des outils que j'ai, du dispositif que j'ai mis en place pour comprendre ce que c'était les mèmes. Comme on en parlait au début, il y a des définitions du mème qui ont beaucoup varié dans le temps et qui varient de personne en personne. Donc c'est une petite enquête qui ne prend pas très très longtemps, que vous pouvez effectivement retrouver sur LinkedIn, entre autres, qui a pour but de comprendre ce que les gens désignent comme un mème. Donc il y a plein d'images qui sont proposées et je demande aux personnes de répondre en disant si elles considèrent que c'est un mème, si elles appelleraient ça autrement, pour mieux comprendre ce qu'est un mème.
Donc c'est facile, hein. Il faut regarder les images et cliquer, c'est tout.
Ça prend zéro compétence et il n'y a pas de bonne réponse, je le dis dedans, mais c'est très important. Mon but en tant que chercheur, c'est pas de dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, de donner des bons points ou de juger, c'est vraiment de comprendre ce que les gens considèrent être un mème. Et c'est pas parce que quelqu'un ne passe qu'une heure par semaine sur Internet, ce qui est impossible, mais imaginons que son avis ou sa perspective serait moins légitime. Donc c'est tout aussi intéressant pour moi d'avoir des personnes qui sont très peu familières de la culture Internet que des personnes qui y sont chroniquement et qui auraient l'impression d'avoir toutes les bonnes réponses. Tout se vaut pour moi.
Et alors, c'est ouvert à qui veut, en fait, donc il n'y a pas de condition d'âge ou quoi que ce soit, tout le monde peut répondre.
Non, vraiment, puisque en plus, c'est vraiment précisé, les personnes peuvent ne pas répondre si jamais elles se sentent pas légitimes à répondre, mais il n'y a pas de raison que, puisque le but, c'est juste de dire ça, je pense que c'en est un, ça, je pense que c'en est pas un. C'est une sorte de petit test qui prend 5-7 minutes.
Donc on rappelle que cette enquête, elle est sur LinkedIn, mais peut-être qu'on peut la trouver ailleurs, parce que tout le monde n'utilise pas LinkedIn non plus.
Eh bien, demain, quand vous chercherez, j'aurai appelé Google pour faire en sorte que ce soit la première chose qui tombe si vous mettez Soufiane Chafik, Chafik, enquête.
Entendu, et ben voilà, avis aux auditeurs, vous cherchez ça, vous trouverez cette enquête, on peut la compléter jusqu'à quand ?
Si vous voulez le faire immédiatement, ça m'arrange, si vous voulez le faire. Vous avez en tout cas jusqu'à cet été, il n'y a rien qui presse. Dans tous les cas, je commence déjà à exploiter en partie les résultats. Mais je suis toujours ravi d'avoir de nouvelles participations. Et je vous en suis éternellement reconnaissant si vous choisissez de le faire.
Et qu'est-ce qui se profile après pour cette thèse ? Du coup, c'est quoi les étapes suivantes ? Donc bah, déjà, étudier les questionnaires. Qu'est-ce qui va se passer d'autre ? Jusqu'à la présentation.
Donc il y a une partie qui consiste à définir ce que c'est que le mème, pour lequel je m'appuie sur l'enquête à laquelle vous allez très obligément répondre. Et dans une autre partie, j'étudie par exemple des corpus, donc je sélectionne des mèmes et je regarde comment ils sont construits, qu'est-ce qu'ils disent par exemple. Donc on l'a mentionné tout à l'heure, le moi, quand tu, qu'est-ce que ces formes-là, elles signifient pour nous. C'est une forme assez particulière que de dire à quelqu'un moi, quand, en supposant que lui en fait est aussi concerné. Avant, on avait avant même, il y a très longtemps, on devait dire « on » quand on va à la boulangerie et qu'il se passe quelque chose. Puis on est passé à « quand tu vas à la boulangerie et qu'il se passe quelque chose ». Et là, on passe à « quand je vais à la boulangerie ». Et pourtant, c'est une expérience qui implique quand même d'autres personnes. Donc j'examine tout ça en récoltant des mèmes. Et on l'espère, je soutiendrai l'année prochaine cette belle thèse.
Et alors, ce sera public ?
Si jamais les personnes jugent qu'elle est suffisamment bonne pour mériter d'être lue, j'en serais ravi.
Merci. Est-ce qu'on peut suivre les avancées de ta thèse, peut-être sur le site? Est-ce qu'il y a un blog du laboratoire Prime ou quelque chose où on peut suivre les avancées des doctorants?
Pour l'instant, non, mais je pense que c'est le coup de pouce dont j'avais besoin pour me lancer. Je crois que j'ai techniquement pris le nom sur Instagram pour créer quelque chose, mais que je n'en ai pour l'instant rien fait. Peut-être que dans quelques minutes, ce sera mon premier post.
Bah déjà, un lien vers cette émission, évidemment. Mais peut-être mettre des exemples d'eux-mêmes. Ça peut être tout à fait intéressant de les décortiquer et tout, de les expliquer. Non, vraiment, je ferai partie des abonnés.
Merci beaucoup. Et je pense que c'est une très bonne idée.
Et alors voilà, il me reste à te remercier, Soufiane Chafik, doctorant au laboratoire Prime à l'Université de Tours, d'être venue parler de MEM et de ta thèse sur Radio Campus Tours dans la Méridienne, donc émission à réécouter à volonté sur notre site et aujourd'hui même à 17h. Allez, quel sera ton mot de la fin ?
Merci à toi de m'avoir invité. Je pense que c'est sur ça que j'aimerais insister. J'ai été extrêmement heureux de participer à cette émission. Merci.
Merci beaucoup. Allez, une dernière pause musicale. Quel sera ton choix ? Comédie musicale, musique électro, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais écouter ?
Ah, pris au dépourvu comme ça. La première qui me vient, c'est If I Could Read Your Mind de Viola Wills.
Eh bien, nous écoutons ça. Et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.